Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Ensemble, prenons soin des autres. Demain, 7h55, dans le Pit Stop, 14h avec les demoiselles. Dans le retour.
Boulevard 102.1. Ce pas à tous les jours pour vous donner l'heure juste. Traitez l'actualité qui nous entoure avec les spécialistes qui savent de quoi ils parlent.
Oh my God, I can't believe it.
Boulevard décortique. Boulevard rassemble. Rassemble.
Come together.
Boulevard 102.1. La radio de l'extrême-centre au Québec. Maintenant, 100% talk. Une propriété, Leclerc Communication. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir. Le soir.
Ce sera une grosse soirée politique ce soir, puisque j'ai le plaisir de recevoir Luc Laliberté, podcasteur, chroniqueur politique international, chroniqueur politique américaine. Salut Luc Laliberté, comment ça va?
Salut Yannick Marceau, ça va très bien, toi aussi?
Ça va très bien. Comment ça va tes podcasts La Liberté en clair?
Écoute, c'est drôlement intéressant comme expérience. On se demande toujours, quand on n'est que dans les médias, ce qui a été le cas pendant longtemps, est-ce qu'on serait suivi sur les réseaux sociaux en travaillant, en faisant cavalier seul? Donc, je pensais avoir quelque chose à offrir, mais la réponse, c'est au-delà de mes espérances. On a des capsules qui ont été vues jusqu'à 75, 80 000. On en a une qui a passé les 100 000 vues. Puis, on a une moyenne depuis le début. On en est à 2 mois à peu près d'opération. Puis, on a une moyenne de 45, 46 000 vues. Donc, c'est drôlement intéressant. Puis une des choses que j'aime, et ça, c'est un sujet qu'on a déjà abordé tous les deux, c'est qu'en étant sur les réseaux sociaux, est-ce que j'allais être confronté à plus de trolls ou de commentaires gratuits là, pour lesquels il n'y a pas de contenu? Et écoute, c'est étonnamment, je le dis et je m'en réjouis, on ne souhaite pas le contraire, mais c'est étonnamment respectueux. On a eu quelques trolls, mais c'est vraiment marginal. Sinon, quand les gens, qu'ils soient en désaccord, qu'ils viennent nuancer, qu'ils aient des questions posées, entre eux, puis dans leur relation avec moi, écoute, jusqu'à maintenant, rien à dire ou à redire sur l'expérience, sinon que je m'en réjouis.
Parfait, je suis très content pour toi, puis d'ailleurs, je suis un de tes auditeurs et j'adore ton podcast, soit dit en passant. Puis pour ce qui est des gens qui sont des trolls sur les réseaux sociaux, bon, on en voit passer une fois de temps en temps. Je parlais avec une anchor à l'époque de LCN, puis elle, à tous les jours, les gens passaient des commentaires sur la façon dont elle était habillée. Pas ce qu'elle disait, pas... on lui disait pas, ben, « Madame, vous êtes une femme intelligente » ou « Madame, vous êtes ignoble comme individu ». Non, c'est son tailleur n'était pas adéquat, puis c'était vieillot, puis n'était pas à mode. Tu sais, il y aura toujours de ces gens-là, mais pour en revenir sur les propos, moi, j'aime bien le centre-gauche et le centre-droit, puis il y a des gens même qu'on peut situer aussi au centre. Là. Ces gens-là, on les appelle les beiges, ils sont très, très beiges, mais je suis capable de discuter, moi, avec les gens de centre-gauche, centre-droit, les gens qui sont au centre. J'ai beaucoup de difficultés avec les gens qui sont dans les extrêmes, et malheureusement... Voilà. Il n'y a pas eu beaucoup de choses qui étaient très rassembleuses au Québec dans les dernières années. Ça fait en sorte qu'on s'est comme séparés les uns des autres. Puis ça devient une tristesse des fois. T'sais, un chroniqueur politique, tu amènes tes angles à toi, tu amènes ton opinion, tu amènes tes analyses. Tu es très factuel aussi, factuel dans ta manière d'analyser les choses. Il y a toujours des gens qui n'ont peut-être pas la même information que toi, qui vont... croire que tu es un ennemi à abattre parce que tu commences parce que tu comprends pas les choses comme eux, ou eux détiennent une information que toi t'as pas, ou encore tu es payé par le gouvernement pour répéter ça. Luc, j'ai déjà entendu ça.
Tout à fait.
J'attends toujours le chèque d'ailleurs là, du gouvernement.
Voilà, pour, écoute, on est plusieurs, j'imagine qu'on pourrait y aller d'un recours collectif parce que si c'est le cas, moi, je vais être payé avec intérêt si jamais j'étais payé par le gouvernement.
Hey, c'était pas au plan ce soir, mais la petite dernière de PSPP qui a l'impression d'être espionnée là, par des espions, ça se voit à la télé, ça s'est vu au cinéma, c'est très hollywoodien dans la façon de faire. Dans House of Cards, on voyait justement qu'il y avait un petit peu d'espionnage. Mais la politique, ça a tout le temps été ça. T'sais. Les gens se surveillent entre eux pour savoir ça va être quoi le prochain move qu'il va faire. C'est c'est un gros jeu d'échecs, à savoir si c'est des espions de la CIA qui espionnent PSPP. Là, on va se le dire, je pense pas que ce soit ça du tout.
Ben écoute, d'abord, qui aurait-il à espionner? Parce que je pense pas que Saint-Pierre-Plamondon fasse de grandes cachettes de quoi que ce soit. Il n'y a pas de mystère. Sa position sur l'immigration, le nationalisme, la souveraineté, l'indépendance, écoute, ça me semble être clair comme de l'eau de roche. On aime, on n'aime pas, on embarque ou on n'embarque pas. Je me demande ce qui reste à espionner dans son cas. Est-ce qu'il y a des éléments de stratégie importants? En même temps, ça lui permet de ramener de l'avant la problématique qu'il y a déjà eu pour le PQ. Parce qu'on a, il y a Claude Morin, par exemple, qui, dans l'histoire, avait été un personnage marquant parce qu'il fournissait de l'information à la GRC, ouais. Voilà, au gouvernement fédéral. Donc, on peut comprendre qu'il veuille jouer de ça, mais écoute, sans divulguer pour qui je vais voter ou pour qui je ne voterai jamais dans les élections provinciales, je m'étonne un peu de la stratégie des derniers mois de Paul Saint-Pierre-Plamondon. Et pour moi, cette dernière déclaration, là, cette espèce de complot visant qui touche le fait qu'il serait espionné, lui ou les membres. Écoute, parce que c'est sérieux, là, ils déposent leur téléphone hein, dans des sacs pour protéger donc, les sacs Faraday. Donc, c'est très, très sérieux. Mais pour moi, ça va avec un virage qui a commencé il y a, je dirais, 6, 7, 8 mois, quand il a changé de chef de cabinet. Donc, quand il a changé la personne qui était la plus proche pour le conseiller, on a pris tout un virage où le Paul Saint-Pierre-Plamondon, qui apparaissait tellement frais et sympathique à plein de Québécois, celui qui a permis au parti de se rétablir dans les sondages, mais de manière spectaculaire, on visait un gouvernement majoritaire, mais comme hors de tout doute, on est rendu maintenant avec une lutte qui est très serrée, beaucoup plus serrée que ce à quoi on s'attendait. Et je trouve que les péquistes ne font pas l'effort de se regarder avant de blâmer les médias. Est-ce que des médias jouent ça dur? Est-ce qu'on le relance? Quand on est dans le siège du meneur, habituellement, on s'attend à être bousculé ben un petit peu plus. Mais là, ce qui m'étonne, c'est qu'on met la faute sur à peu près tout le monde, les chroniqueurs, les journalistes, mais il n'y a personne qui dit « ben le chef a changé et est-ce que la stratégie est payante? » Il reste encore du temps avant l'élection. Mais il me semble qu'il se passe quelque chose dans les derniers sondages dont on devrait prendre acte. Peu importe qu'on appuie Paul Saint-Pierre-Plamondon ou pas. Moi, c'est la stratégie souvent qui m'intéresse en politique. Est-ce qu'on a encore la bonne stratégie?
Intéressant. Mais dans le cas de l'espionnage, moi, si j'avais été le conseiller proche de Paul Saint-Pierre-Plamondon, j'aurais dit... Tu peux dire que tu es très surveillé de la part des autres partis politiques. Tu peux dire que tu es très surveillé par Mark Carney. C'est toujours important de trouver un méchant là, dans l'histoire. Dans un film, il y a toujours un méchant. Mais le mot espion, je ne l'aurais peut-être pas utilisé. Espionnage non plus, parce que ça va malheureusement lui coller pour ce qui est des prochaines heures, les prochains jours, puis peut-être même les prochaines semaines. Dans l'histoire du Québec, bon, on a connu l'histoire de Claude Morin dernièrement. Là, je pense que c'était une belle job de TVA, d'ailleurs, d'avoir interviewé cet individu-là. On s'en doutait, mais que lui le dise, moi, c'est la première fois que je l'entendais. Au Canada, y a-tu eu ce type d'espionnage-là? Aux États-Unis, est-ce qu'il y a des grosses histoires d'espionnage du gouvernement en place qui ont ressorti dans les dernières décennies?
On l'a fait, mais la plupart du temps, quand on parle d'espionnage pour le Canada, c'est une menace qui provenait de l'étranger. On l'avait vu avec les Soviétiques pendant la guerre froide, il y a une histoire qui est demeurée célèbre. On l'a vu, par exemple, avec la Chine, quand on pense à des questions d'ingérence, d'écoute. Ouais. À Ottawa, c'est une question qui revient régulièrement. Quand on parle de sécurité, c'est beaucoup plus l'ingérence étrangère, moi, qui m'inquiéterait d'ailleurs, mais c'est beaucoup plus qui a l'air à retenir l'attention des autorités. Et si j'avais à regarder, c'est là que je miserais pour l'essentiel. Maintenant, tu le dis, c'est certain qu'on cherche toujours l'avantage stratégique face à un adversaire, puis ensuite reste à soupeser, si on pense avoir trouvé quelque chose, qu'est-ce qu'on a à gagner ou à perdre en le faisant? Et moi, c'est le calcul, pour revenir à Paul Saint-Pierre-Plamondon, dont je ne suis pas certain. Est-ce qu'il gagne plus en disant « Regardez, là, les méchants fédéralistes, parce qu'il faut un bon et un méchant, tu disais. Est-ce que les méchants fédéralistes sont prêts à renouveler? Là? Est-ce qu'ils reviennent à la charge? Qui il va chercher avec ces votes-là? Est-ce qu'il va tout simplement satisfaire les purs et durs qui ne voteront pour personne d'autre que pour lui? Est-ce que ça l'aide à maintenir ou à aller chercher des appuis qu'il n'avait pas? Moi, je suis loin d'être convaincu du calcul. Donc, c'est un petit peu ça. Pour le Canada... C'est la menace qui vient de l'étranger, finalement, beaucoup plus que de l'intérieur.
OK. Revenons à nos moutons. Donald Trump, qui est en Chine avec plusieurs chefs d'entreprise, il revoit Elon Musk, son ami Elon Musk, qui est le patron de Tesla, de SpaceX. Il y a aussi les patrons d'Apple qui sont là, les patrons de Boeing. C'est Kelly Ortberg, qui est le patron de Boeing. Puis pour ce qui est d'Apple, c'est Tim Cook. Ils vont discuter, ils vont discuter d'affaires avec Xi Jinping.
Ils vont essentiellement, une des problématiques, parce qu'il y en a plusieurs sur la table pour cette rencontre-là, mais une des problématiques, c'est une forme de normalisation des échanges entre des échanges commerciaux entre les États-Unis et la Chine.
Ouais.
C'est une lutte qui a débuté bien avant Donald Trump. C'est une lutte qui avait déjà cours lors de son premier mandat, mais ça s'est compliqué dans le deuxième mandat en raison de plusieurs indicateurs, de plusieurs éléments, mais entre autres, la politique tarifaire. Et c'est certain que la Chine est préoccupée, mais il y a des gens aux États-Unis qui se préoccupent aussi. La Chine est préoccupée par le fait que, écoute, je pense que dans les relations commerciales, on est à la baisse de 11 ou 13 % du potentiel d'échange qu'on avait il n'y a pas si longtemps encore. Donc, c'est certain que quand on débarque avec des hommes d'affaires aussi influents, aussi puissants que ceux qui accompagnent Donald Trump, on va aller discuter relations commerciales avec la Chine, c'est certain.
On va parler de restrictions sur des approvisionnements, on va parler des terres rares, des semi-conducteurs, de l'intelligence artificielle, des propriétés intellectuelles. Ça risque de brasser. Hein?
Le président voulait aussi ajouter, parce qu'il a besoin quelque part d'offrir quelque chose de rassurant aux Américains. Il a besoin, entre guillemets, d'une victoire. Et on dit qu'il serait prêt non seulement à discuter de ce que tu viens d'énumérer, mais il ajouterait aussi à ça... J'ai un blanc
le
soudainement.
Le pétrole iranien?
Non, ça, oui, ben il y a ça, mais c'était comme en parallèle.
Ouais.
Ce que je voulais dire, c'est la question du fentanyl. Donc, il le fait avec le Canada, il le fait avec le Venezuela, il le fait avec l'Amérique centrale, avec l'Amérique du Sud. Donc, ce qu'il voudrait, c'est une collaboration supérieure de la Chine pour éviter que du fentanyl entre aux États-Unis. Donc, ce serait également sur la table. Pour ce qui est du pétrole iranien, ça, c'est un dossier c'est le boulet que traîne Donald Trump quand il se présente en Chine. C'est problématique pour Xi Jinping parce qu'il y a un prix à payer pour le blocus du détroit d'Hormuz, puis la baisse, parce qu'il y a une baisse de production du pétrole en Iran au moment où on se parle. Tout ça finit par affecter la Chine. Mais la Chine est moins pressée dans ce dossier-là que ne le serait ou que ne l'est l'administration Trump. Trump est très impopulaire aux États-Unis, son conflit est très impopulaire, l'inflation est à la hausse, puis les Américains le pointent du doigt pour ne pas s'occuper assez du coût de la vie ou de l'inflation. Donc, Xi Jinping n'aime pas ce qu'il voit actuellement dans le Golfe, il n'aime pas les retombées qu'il y a pour la Chine, mais il s'attend à ce que le président américain soit prêt à faire des concessions pour que Xi Jinping intervienne, lui, ou joue du poids de la Chine auprès des dirigeants iraniens. Donc, c'est intéressant. Puis, il y a eu un développement qui a étonné plein de gens hier soir et ce matin. Le président a même ouvert la porte à discuter, puis tout ça, on va ramener ça à l'Iran, là, mais il est même prêt à discuter du cas de Taïwan avec la Chine, ce que les présidents américains ne font jamais. Par convention, et pour respecter la loi qui a été votée aux États-Unis sur les relations entre Taïwan et les Américains, on ne parle pas de vente d'armes et de la question de Taïwan avec la Chine. Donc, est-ce que Donald Trump est prêt pour obtenir des concessions comme monnaie d'échange à jaser ouvertement de Taïwan? C'est là où je disais, on vient peut-être rejoindre finalement la question de l'Iran. Donald Trump a une demande, intervenez auprès de l'Iran. Moi, je voudrais sortir de là où je voudrais régler ça. Et sur la table, il semble mettre, mais là, ça, c'est moi qui le dis, c'est pas confirmé, mais il semble ouvrir la porte, en tout cas, à discuter de Taïwan ouvertement. Et si je suis à Taïwan, j'aime pas du tout ce que j'entends depuis hier et ce que j'entends ce matin. Donc, si je suis dans la région, je n'aime pas ça non plus. Si un président américain est prêt à revenir sur des conventions ou à dénaturer le sens d'une loi qu'il a signée, la parole de Donald Trump vaut quoi? Donc, tu me disais, il est question du pétrole iranien? Oui. Et probablement que Trump a quelque chose à demander. De l'autre côté, on est peut-être en train d'offrir Taïwan.
Oh boy, wow. Est-ce que...
Les gros dossiers.
Je te pose la question qui tue, Luc, la liberté. Qui est en position de force actuellement entre les États-Unis et la Chine? Parce que ça a toujours été deux grands compétiteurs, là, l'un et l'autre. Qui est en mesure de s'imposer actuellement? Est-ce que c'est Donald Trump ou c'est les Chinois?
Moi, je dirais léger avantage à la Chine au moment où on se parle. D'abord, l'ensemble des infrastructures à l'échelle internationale, puis le fait que la Chine remplace les États-Unis comme soft power. C'est-à-dire, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin d'un partenaire fiable, bien, nous sommes là. Puis les Américains n'y sont plus ou y sont de moins en moins. Et de l'autre côté, puis ça, bien, écoute, c'est un avantage structurel, la Chine, c'est pas un régime démocratique. Donc, on est moins pressé quand un dirigeant est un leader autoritaire. On a moins à répondre des sondages ou des mouvements de population, de l'insatisfaction. Et ça, ne serait-ce que ça, en politique intérieure, je répète ce que je mentionnais tout à l'heure, Donald Trump, dans ses deux mandats, le deuxième complété puis le premier en cours, il n'a jamais été aussi impopulaire. Et si lui fait semblant, tout le monde, en tout cas à terme, ça n'a pas l'air de le déranger parce qu'il a dit « je ne pense pas, moi, à la sécurité financière des États-Unis, ça ne me préoccupe pas ». Donc, il a dit ça hier avant de monter à bord de l'hélicoptère. Donc, si lui ne se préoccupe pas de ça, c'est certain qu'aux États-Unis, dans son groupe, au sein de ses conseillers et chez les Républicains, ça presse. Les élections de mi-mandat approchent, c'est des mois, mais on se prépare toujours à long terme, surtout quand on n'a pas de solution à court terme, on voit venir l'échéance électorale. Et donc, tout ça pour dire, l'administration Trump a une pression à l'interne que Xi Jinping n'a pas de son côté.
Est-ce que tout ça est écrit d'avance? Est-ce que tous les scénarios sont écrits d'avance et dans quelques semaines, quelques mois, juste avant les élections de mi-mandat, tous les conflits qui impliquent les Américains seront réglés et là, on repartira sur de nouvelles bases. Puis là, ben, les élections de mi-mandat, ça va bien aller. Donald Trump va faire la deuxième partie de son mandat. J.D. Vance va avoir le vent dans les voiles, va se présenter et va devenir président des États-Unis plutôt que vice-président des États-Unis. C'est-tu le scénario qui serait écrit d'avance, selon toi?
C'est assurément pas bête, en tout cas, de l'envisager, parce que traditionnellement, mais ça, c'est avant il y a 10 ans, traditionnellement, on attendait toujours, les élections sont en novembre, que ce soit les élections présidentielles ou les élections de mi-mandat. Traditionnellement, on parlait de la question de la surprise d'octobre. C'est qu'on attendait, c'est arrivé avec James Comey pour Hillary Clinton, par exemple. Les gens s'en souviennent peut-être, là, on remonte dans le temps.
Ouais.
Mais donc, souvent, on se dit, on garde des cartes dans son jeu, puis on attend près, le plus près possible du scrutin, il faut que ça ait le temps de faire effet. Mais là, on largue une bombe, une nouvelle qui est très positive, un élément auquel on ne peut que se rallier ou contre lequel on ne peut qu'être choqué si on parle de son adversaire. Ce qui me fait douter de ça. Donc, je ne dis pas que c'est impossible et ça n'arrivera pas. Je pense qu'on va avoir droit du côté de l'administration Trump à de bonnes nouvelles. C'est qu'il est tellement impopulaire sur tellement de fronts qu'il ne faudrait pas avoir une surprise d'octobre. Il faudrait avoir tout un mois d'octobre surprise. Donc, c'est pour arriver à replacer Donald Trump dans les sondages. Au mieux, Donald Trump, il arrive à 50 % dans les sondages quand ça va bien. Et là, ça ne va pas bien, et ça ne va pas bien c'est un taux d'approbation de 34 %. Et ce qui devrait l'inquiéter beaucoup, c'est qu'il y a une foule de mesures. Les démocrates, ça va. On compte pas sur les démocrates. On compte pas sur, de moins en moins, sur les indépendants, sur les indécis, parce qu'il y en a encore dans une époque de polarisation, les indécis. Ça se joue sur la mobilisation et ça se joue sur la solidité de notre base électorale. Et la base électorale de Donald Trump, elle est affectée. Pas beaucoup. Mais ça n'en prend pas beaucoup dans les élections américaines pour perdre. Donc, s'il perd, ne serait-ce qu'un faible pourcentage de sa base, il est déjà en rupture avec beaucoup d'influenceurs qu'on appelait des influenceurs MAGA, comme Tucker Carlson, par exemple. Donc, il y en a un certain nombre qui ont pris une autre direction et qui n'hésitent pas à condamner ou à rejeter Donald Trump. Joe Rogan le fait plus poliment, puis il a même dit « je regrette d'avoir contribué à faire élire Donald Trump ». Et Joe Rogan est encore une voix qui est respectée et écoutée par de nombreux auditeurs de son podcast, très influent donc encore. Donc, si vous tassez ce monde-là et qu'il y a une partie de votre base que vous mettez en colère, vous la mettez en colère sur l'Iran, vous la mettez en colère sur la religion catholique, vous la mettez en colère sur le coût de la vie, ça fait beaucoup de monde à aller chercher pour espérer qu'aux élections de mi-mandat, on soit gagnant. Donc, je répète, ce que tu mets sur la table, c'est très intéressant et c'est possible. Est-ce qu'on peut remonter une côte comme celle que Donald Trump a à grimper? Ils nous ont montré qu'il ne faut jamais le considérer pour mort. Donald Trump, mort au plan politique, là, on fait toujours attention à nos mots. surtout depuis l'attentat contre le président. Donc, on fait toujours attention aux mots qu'on choisit. Mais donc, est-ce qu'il est à terre? Est-ce qu'il est battu?
Ouais.
Chose certaine, en tout cas, Donald Trump ne va jamais arrêter de lutter. S'il y a une chose dont on est certain, c'est qu'il va se débattre tant et aussi longtemps qu'il va le pouvoir. Et d'ailleurs, on ne le donnait pas gagnant pour un deuxième mandat. On pensait que sa carrière politique était terminée. Ben, il est président, puis on en discute encore aujourd'hui tous les deux.
Incroyable. Mark Carney a été rencontré les Chinois il y a de ça quelques temps. J'avais été surpris parce que je me suis dit, concentre-toi sur ce qui se passe aux États-Unis. C'est notre voisin le plus proche. Nos exportations vont aux États-Unis. Il y a énormément d'entreprises qui dépendent de ces exportations-là vers les États-Unis. Et Carney a quand même été rencontré les Chinois. Là, c'est Trump qui s'en va rencontrer les Chinois. On espère que tout ça se passe bien, bien entendu. Je suis d'accord avec toi pour ce qui est de Taïwan, avec tout ce que j'entends, effectivement, ça pourrait être une petite problématique si jamais il y a Taïwan qui vient dans le dossier pour ce qui est des échanges, peut-être. Ah, Détroit d'Ormuz, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous autres? Ça commence à être peut-être inquiétant pour les gens de Taïwan. Mais bref, quand est-ce que... Je pense qu'on a perdu Luc. Je ne sais pas si je vais être capable de le retrouver. Mais ben voilà, il revient. Je vais juste le rajouter à la conversation.
Bon, Yannick, une interruption, pardon.
Voilà, il n'y a pas de problème. Donc, ce que je disais, c'est que je suis d'accord avec toi. Si j'étais un habitant de Taïwan, là, avec ce qui se passe, là, Donald Trump qui jase avec le président de la Chine, j'aurais un stress de servir de monnaie d'échange. Mais quand est-ce que... Trump va rencontrer Carney. Où en est la relation actuellement entre le Canada et les États-Unis pour ce qui est du fameux accord qui devrait se signer dans quelques temps? D'ailleurs, j'avais entendu Jean Charest dire que si on ne réussit pas à s'entendre, c'est l'entente initiale qui avait été signée par Trump qui va être reconduite. Voilà. Information que je ne savais pas, mais j'ai appris ça avec l'ancien premier ministre du Québec, Jean Charest. Où on en est dans cette relation-là avec les Américains concernant le Canada?
Ah, écoute, ça, c'est drôlement intéressant. Puis, je me suis retrouvé avec l'ancien premier ministre, pas directement avec lui, mais dans une conférence qui a eu lieu à l'Université Laval il y a peu de temps. Donc, j'animais avec d'autres spécialistes un atelier, justement, sur la politique commerciale du Canada. Donc, l'évolution de nos relations avec les États-Unis. Et la plupart des gens qui étaient là, bon, on a pris la parole, là, ceux qui habituellement analysent et commentent la politique américaine, mais dans ceux qui ont pris la parole... Ils s'entendaient tous pour dire d'abord qu'il faut diversifier nos échanges, que c'est pas la fin de nos relations commerciales, c'est pas une rupture brutale, mais on est dans une révision qui est très importante. Et l'ancien premier ministre fait très bien de souligner, ce serait regrettable, mais ce n'est pas la fin du monde si on ne parvient pas à s'entendre cet été. On a encore des années, donc, de libre-échange. Et c'est un libre-échange qui, malgré tout le bruit qu'il y a au sommet, malgré le chaos dans lequel on vit, des relations plus tendues, c'est encore un partenariat qui fonctionne bien pour les deux camps. Il y a des heurts qui sont majeurs, on le sait. Mais donc, dans cette révision-là, tout n'est pas encore joué. Ce que fait Mark Carney, puis il s'appellerait Pierre Poilievre, je te dirais à peu près la même chose, c'est que on est dans un jeu d'équilibriste qui est très, très important. Et je pense que Mark Carney pose des gestes qu'il n'a pas le choix de poser. Il le fait avec l'Europe, il le fait avec la Chine, et l'équilibre, le dosage fin qu'il doit maîtriser, c'est jusqu'où je peux aller tout en pouvant continuer à négocier autour de la table une entente qui a si bien servi les deux pays et qui peut encore si bien servir les deux pays. Mais, donc, je répète, c'est un jeu d'équilibre. Donald Trump comprend la force. Il comprend dans certains secteurs, sinon, il y a beaucoup d'États américains qui le comprennent, qu'on a intérêt à s'entendre, qu'on n'a pas intérêt à jouer dur sur toute la ligne parce qu'on peut difficilement obtenir mieux autrement. Donc, il y a cet équilibre-là. Qu'est-ce qu'on peut sauver de l'accord actuel puis des liens historiques qu'on a eus en ne misant plus sur le même lien de confiance? Et la Chine? Bien, la Chine, c'est comme un des nombreux contrepoids. Les États-Unis n'aiment pas voir les Chinois s'inviter en Amérique. Ils l'ont fait au Mexique, par exemple. Ils l'ont fait ailleurs, dans les pays d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud. Et là, Mark Carney avait déjà envoyé un message fort, entre autres en ouvrant la porte à des véhicules électriques chinois qui sont drôlement compétitifs, même avec des tarifs. On fait baisser le prix ou on risque de faire baisser le prix des tarifs. donc des prix, des véhicules, même si on a imposé une limite. Ils ne débarquent pas par centaines de milliers, les véhicules chinois, mais on envoie un message assez fort aux États-Unis. Et ce qu'il faut toujours gérer avec Donald Trump, c'est à quel point il parle fort, à quel point il peut insulter. Puis il a un ambassadeur qui fait à peu près le même travail ici. Donc, l'ambassadeur Hoekstra, là, il n'est pas particulièrement populaire au Canada parce qu'il rapporte très bien le style et le contenu de Donald Trump. Mais au-delà, donc, des grandes déclarations emportées, spectaculaires, qu'est-ce qu'on peut sauver de cette relation-là? Et moi, je pense qu'il y a encore beaucoup à sauver. Mais ça fait beaucoup d'irritants, ça fait beaucoup de chaos, puis ça fait beaucoup de bruit autour de la table de négociation.
Ouais. Est-ce que le Mexique s'en sort mieux au niveau des négociations avec les Américains? Parce que, tu sais, de mon côté, j'entends des entrepreneurs québécois qui exportent, qui sont bien inquiets, des entrepreneurs canadiens aussi qui sont très inquiets. De l'autre côté de la frontière, on sait que le nord des États-Unis pose certaines questions parce qu'eux étaient habitués d'importer du Canada, puis là, ils doivent se river aux tarifs de Donald Trump. Donc, puis ça, c'est ce que les gens ne savent pas toujours, là, c'est que quand Donald Trump impose des tarifs, il impose des tarifs aux Américains, pas aux Canadiens, mais on est touché parce que les Américains vont être moins portés à acheter chez nous parce qu'ils ne veulent pas payer les tarifs à Donald Trump.
Bien, écoute, d'abord, c'est ce que les tribunaux ont dit ou ont confirmé. Les tarifs de Donald Trump, c'est des taxes qu'on impose finalement aux Américains. Et on a déclaré du côté de la Cour suprême, puis plus récemment du côté d'un tribunal du commerce international, que ce que faisait Donald Trump avec les tarifs, c'était une mauvaise utilisation. Ça ne respectait pas la Constitution ou les lois qui existent déjà. C'est d'une certaine façon une bonne nouvelle à la fois pour le Mexique et pour le Canada, même si ce bras de fer-là n'est pas terminé. Parce que Donald Trump avait d'autres lois pour s'ajuster après la décision de la Cour suprême et que la plus récente décision, celle du tribunal du commerce international, l'administration Trump a choisi d'en appeler. Donc, ce n'est pas demain que les tarifs tombent, mais ça veut dire qu'il y a aussi une limite à cet argument-là ou à ces tarifs-là. L'autre bonne nouvelle qui pourrait venir à la fois pour le Mexique et pour nous, ce serait une victoire des démocrates aux élections de mi-mandat. Pas parce qu'on aime plus les démocrates que les républicains en général. Il y a bien des Québécois et des Canadiens qui voteraient républicains si on leur en donnait l'occasion. C'est la gestion du tarif. Une des choses qui permet à Donald Trump d'agir avec les tarifs, c'est que le Congrès ne joue pas son rôle au moment où on se parle. C'est-à-dire que les tarifs, puis c'est ce qu'a rappelé la Cour suprême et le tribunal donc du commerce international, les tarifs, selon la Constitution, c'est entre les mains du Congrès que ça se trouve. Donc, le Congrès, jusqu'à maintenant, majoritairement républicain, a osé limiter Donald Trump sur les tarifs. C'est pas la première fois qu'on laisse un président aller avec certaines décisions sans faire de contrepoids, mais là, c'était très spectaculaire à quel point on s'est bouché le nez ou on a détourné le regard pour ne pas intervenir dans ce que Donald Trump faisait. Et une victoire démocrate, c'est assurément un Congrès qui va rappeler au président « Désolé, M. le Président, mais les tarifs, ça nous appartient. » Donc, on verra ensuite comment Donald Trump va réagir. Il y a fort à parier qu'il va vociférer, il va peut-être y aller d'une nouvelle série de commentaires sur Truth Social. Il a l'habitude de faire ça jour et nuit. Donc, mais autour de la table de négociation, ça risque de se jouer autrement. Ce n'est pas un horizon qui est tout de suite utile pour nous parce qu'on devrait, on parle de l'été, bien sûr, pour une renégociation ou revoir des détails de la CEUM, de l'entente de libre-échange. Donc, ce n'est pas utile pour cet été, mais à partir du mois de novembre, la donne risque de changer. Les tribunaux et le Congrès serait opposé au président sur la question des tarifs.
Ouais, une question comme ça, puis on revient à la guerre entre l'Iran, l'Israël, puis les États-Unis. Donald Trump peut continuer à faire la guerre pendant combien de temps encore avant de devoir demander des permissions? Parce que là, on parle de plusieurs milliards de dollars qui sont engrangés. J'imagine qu'à un moment donné, le contrepoids aux États-Unis va devoir faire son travail.
Oui, bien écoute, il y a deux ou trois choses là-dedans. Puis là, c'est une guerre de mots autant qu'une guerre à proprement parler sur le terrain entre les États-Unis et l'Iran. Autant pour faire la guerre que pour mener, autant pour mener une guerre que pour obtenir de l'argent, normalement, le président américain, il a besoin de l'avis du Congrès. Les spécialistes, entre guillemets, des budgets militaires aux États-Unis, c'est les représentants de la Chambre des représentants. Donc, ce qui aurait dû se produire déjà, c'est le président qui, après 60 jours de guerre, va voir le Congrès pour dire « Là, je suis arrivé au bout de ce que la loi me permet. Je pouvais agir pendant 60 jours. Maintenant, j'ai besoin de votre approbation. » Ça ne s'est pas fait. Puis, pas plus qu'on est allé chercher donc des avis supplémentaires pour obtenir de l'argent. On a joué avec les budgets existants. Pourquoi ensuite, c'est là où je dis, là, on entre dans les technicalités, puis on va essayer de ne pas creuser ça trop loin. L'évidence, c'est qu'il n'y a pas eu d'intervention du Congrès. Mais pourquoi le Congrès n'est pas intervenu? Parce que Donald Trump a dit, la guerre, elle est terminée. Et Pete Hegseth a dit, il n'y en a plus de bombardement, donc il n'y a plus de guerre. Le compteur de 60 jours, en très mauvais français, on met ça sur le reset. Donc, dans la tête de Donald Trump et du secrétaire à la guerre, à la défense, Pete Hegseth, c'est bien là, on vient de remettre le compteur à zéro parce qu'il n'y a plus de guerre. On est en négociation, ce n'est pas une guerre. Donc, on se reverra dans 60 jours. C'est jouer avec les mots et ça montre encore une fois que les Républicains ne sont pas prêts à demander ou à exiger des comptes de l'administration. Mais nous ne sommes pas dans une situation qui est normale. Qu'on ait passé le cap des 9 semaines depuis les frappes et que le Congrès ait eu si peu à dire et qu'il se soit si peu manifesté, c'est pas ce qui était souhaité par les pères fondateurs, par la Constitution américaine. C'est le pouvoir législatif qui est le plus important et non pas le pouvoir de l'exécutif. On a eu tendance avec le temps, selon les présidents, parfois à jouer avec les pouvoirs de l'exécutif, à étirer nos pouvoirs pour en avoir le plus. Obama l'a fait. On pourrait donner d'autres exemples. Mais on est dans un cas quand même assez rare puis assez spécial sous Donald Trump.
Écoute, de mémoire, je ne me rappelle pas de ça, mais est-ce qu'il y a des gens qui se sont fait taper sur les doigts quand on a décidé d'aller en Irak pour s'occuper des fameuses armes de destruction massive qui n'ont jamais existé? Y a-tu des gens qui ont fait de la prison pour avoir envahi un pays pour un mensonge finalement?
Tu vois, quand on parle de procédures de destitution dans l'histoire américaine, il y en a eu 4 au total des procédures. Donald Trump en a 2 à lui tout seul sur les 4. On parle de toute l'histoire. Moi, j'étais de ceux qui pensaient que ça aurait été utile, une procédure de destitution contre George W. Bush, exactement sur la question que tu viens de mentionner. Est-ce qu'un président peut mentir ouvertement à son pays pour aller en guerre? Puis encore là, c'est un peu comme pour Maduro, par exemple, au Venezuela. Là, je pense pas qu'on ait retrouvé beaucoup d'Américains qui pleuraient la mort de Saddam Hussein quand on l'a retrouvé puis qu'on l'a pendu. Il s'agissait pas de déterminer si ce gars-là était un terroriste ou un meneur autoritaire, exact. Un dictateur sanguinaire. C'était, vous faites entrer l'armée américaine dans un pays souverain, est-ce que vous avez le droit de le faire et pour quel motif? Et nous savons maintenant, hors de tout doute, qu'on a menti pour entrer en Irak. Mais le contexte était particulier. On est dans les années du 11 septembre 2001. Il y a une pression qui est intense, il y a une pression qui est énorme. Ils sont très, très peu nombreux, les individus, à avoir dit ouvertement qu'ils étaient contre la guerre en Irak. Parce qu'on on se devait d'être solidaire à un pays qui avait été attaqué. Écoute, il y a eu 2 attaques étrangères en sol américain. La première, c'est dans le Pacifique avec Pearl Harbor. C'était le déclenchement pour les États-Unis. Là, c'est leur entrée dans la Deuxième Guerre mondiale. Puis après ça, c'était le 11 septembre. Donc, c'est un phénomène qui est rare. On attaquait un grand symbole, qui est celui de New York. Puis en même temps, un des cœurs ou un des endroits stratégiquement les plus importants au plan économique. Les tours jumelles, c'est ce que ça représentait dans le contenu et dans la forme, c'était du pouvoir économique. Donc, on se devait d'être solidaire. Mais il s'est passé des choses autour du conflit irakien qu'on lui a reproché à l'administration Bush après, mais ça a pris des années avant qu'on réagisse.
Mais personne n'a dû répondre de ces actes-là. Personne n'a fait de prison, personne n'a été mis à l'amende.
Une seule personne, un conseiller qui travaillait pour Dick Cheney à l'époque, Scooter Libby, il avait été identifié comme étant la source, finalement, qui avait permis d'identifier une agente de la CIA qui était l'épouse d'un ambassadeur américain, d'un ancien ambassadeur. Et ça a donné un film, d'ailleurs, qui s'appelle Time Out, si je me souviens bien. Et donc, cet ambassadeur est le premier. Il était allé sur le terrain, il avait utilisé ses contacts sur le terrain et il avait écrit dans le New York Times à l'époque un éditorial qui était, pour l'administration, dommageable, hautement dommageable. Il avait dit « il n'y en a pas d'armes de destruction massive ». Tous les contacts que j'ai sur le terrain me disent que ça n'existe pas. Et pour se venger donc de cet ambassadeur, son épouse était une agente de la CIA, puis on a divulgué son nom publiquement. Et lui a dû payer le prix de cette fuite, mais c'est le seul de toute l'administration qui a eu une pénalité pour le conflit en Irak.
Maintenant, Luc Laliberté, toi qui suis la politique américaine, tu suis aussi la politique internationale, pour quelle raison on a décidé de faire la guerre à l'Iran. Pourquoi les Américains se sont mêlés de ça? Et si tu as la réponse, est-ce qu'on va se poser la question, lorsque tout ça sera fini, là, est-ce qu'on va se poser la question à savoir si c'était légitime ou pas de dépenser tout cet argent-là, ces milliards-là qui appartiennent au peuple américain?
Écoute, je n'ai pas de certitude. C'est-à-dire que je ne peux pas me permettre, si tu dis, Luc, la liberté, on t'a invité parce que tu connais les États-Unis puis tu connais la politique internationale. Je peux pas te dire ouvertement, c'est-à-dire je peux pas te dire hors de tout doute. Je peux te le dire ouvertement, mais pas hors de tout doute. On est entré en guerre parce qu'Israël l'a demandé. Mais c'est la seule raison qui a circulé avec des sources de l'interne, de la Maison-Blanche ou du Pentagone, c'est que Benjamin Netanyahou a placé une offre sous les yeux de Donald Trump pour entrer en Iran. C'est une offre qu'il avait présentée à Joe Biden. C'est une offre qu'il avait déjà présentée à Barack Obama. Puis on peut penser que ça avait été placé aussi bien avant entre les mains de George W. Bush. Les présidents américains ont toujours refusé d'embarquer dans ce type d'opération, exactement pour ce qu'on a sous les yeux actuellement. Les généraux américains, d'ailleurs, ils avaient dit à Donald Trump, ben, écoutez, vous êtes le commandant en chef, on va vous suivre si vous le demandez, mais voici ce qui risque d'arriver. Et ce qu'il y avait sur la feuille, entre autres le blocage du détroit d'Hormuz, puis la quasi-impossibilité de débloquer ce détroit juste avec les Américains, les généraux avaient mis ça en tête de liste. Donc, il y a cette influence d'Israël. L'autre argumentaire qui, maintenant, est le seul vers lequel se tourne l'administration Trump, mais on en doute aussi parce que les renseignements américains avaient dit « ben nous, on ne voyait pas ça ». Donald Trump l'a répété hier, « on est en Iran pour éviter que l'Iran se dote de l'arme nucléaire ». Donc, ça pourrait rejoindre plein de gens dans la communauté internationale. On a d'ailleurs fait valoir à un moment donné que c'était pour aider la population iranienne. Je me demande s'il y a encore des gens qui croient à ce volet-là.
C'est parce qu'il y a quelques mois, Luc, il y avait eu des frappes en Iran, puis on avait dit que les Américains avaient retardé le programme d'enrichissement du nucléaire. On nous a dit on a retardé ça de 20 ans, de 30 ans, de 50 ans. On les a remis à l'âge de pierre pour finalement tenter de refaire la guerre avec les Iraniens pour la même raison. C'est du grand n'importe quoi.
C'est là où je te disais, je ne peux pas te garantir ça à 100%, mais c'est là où ça devient intéressant de retenir l'angle offre d'Israël. Parce qu'on a changé tellement de fois de discours sur les motifs. Là, je parle de l'administration Trump officiellement. On nous a donné tellement de versions des faits qui ont mené à l'attaque contre l'Iran qu'on ne sait même plus quelle version croire, sinon celle de l'arme nucléaire. Donc, la seule qui reste solide, crédible, puis appuyée par des sources qui se sont confiées aux médias, c'est celle de l'intervention d'Israël. Sinon, ensuite, on parlait de Saddam Hussein tout à l'heure, si on devait frapper tous les régimes où on a des meneurs autoritaires, on frapperait à bien d'autres endroits que l'Iran, mais ça, c'était une chose qu'on nous a mentionnée. On voulait tasser les meneurs iraniens. Effectivement, là, il y a un problème de succession en Iran. On ne sait plus trop à qui on parle, mais ils ont l'air plus radicaux que la gang qui était là avant. Donc, est-ce qu'on a réussi de ce côté-là? Le peuple iranien, on se réjouissait, hein? Puis on traitait même les chroniqueurs, on disait, on sait bien, vous êtes des islamo-gauchistes parce que vous ne voulez pas libérer le peuple iranien. Non, ce n'est pas ça. Est-ce que vous pensez que Donald Trump le fait pour venir en aide au peuple iranien? On en a éliminé énormément dans les dernières semaines depuis le début du conflit. Et je ne sens pas que c'est une préoccupation pour Donald Trump de dire, allons aider les Iraniens qui sont au front, eux qui résistent au régime. Donc, faites le tour de tous les motifs pour lesquels on est entré en guerre. Les renseignements américains ont dit publiquement, la CIA entre autres, il n'y avait pas de menace nucléaire imminente de l'Iran. Donc, l'administration se tourne vers ça maintenant parce que ça se défend mieux. Qui veut que l'Iran, incluant nous, qui veut que l'Iran dispose de l'arme nucléaire? Personne. Mais c'était quand même donc le seul argument qui reste de tous ceux qu'on a avancés. Puis maintenant, il faut sortir du pétrin. Parce que dans les négociations, ça ne semble pas avancer très vite. L'Iran n'a pas encore accepté de sortir son uranium enrichi du pays. On n'a pas encore fixé de limite ou de durée dans le temps où on acceptait des inspections pour vérifier si on continuait à enrichir de l'uranium. Ils veulent même, la dernière fois, écoute, pour dire à quel point ça va mal, les Iraniens demandaient même des dédommagements pour les dégâts provoqués par les bombardements américains.
Ils veulent notre argent pour rebâtir.
Ben voilà. Donc, disons-le entre nous comme ça, c'est presque une réponse baveuse ou arrogante.
Ben oui.
c'est, En tout cas, ce n'est pas un argument pour se rapprocher des Américains. Et l'autre chose, quand tu disais à un moment donné, il va falloir s'asseoir pour faire le bilan de cette opération-là, le détroit d'Ormuz, il est bloqué. Et ce que les Iraniens ont dit, c'est que nous, on va négocier, mais il faut, faut qu'on ait le contrôle du détroit d'Ormuz à la fin. Il n'y en avait pas de contrôle sur le détroit d'Ormuz. On y circulait librement avant le conflit. Donc, quand on va regarder, pas juste en milliards, quand on va regarder les résultats, en espérant qu'on va parvenir à une paix ou à un compromis, il va rester quoi? Qu'est-ce qu'ont obtenu les Américains qu'ils n'avaient pas avant le conflit? Et là, il y a plein de gens qui ressortent le fantôme de Barack Obama. Est-ce que Donald Trump a eu raison de déchirer l'entente signée par les États-Unis et 5 autres pays pour limiter l'enrichissement de l'uranium par l'Iran? Est-ce que Donald Trump est capable d'obtenir au moins l'équivalent de cette entente-là? Parce qu'offrir moins, c'est comme un aveu d'échec dans la région, dans ce conflit-là. Donc, il y a effectivement beaucoup de choses qu'on va devoir remettre sur la table si, bien sûr, on parvient à une entente ou à résorber cette crise-là.
Luc, je veux une réponse en une minute parce que je dois faire une pause, là, mais c'est le petit moment conspi qu'on se fait, toi puis moi, là. Je suis sur le site Reddit. Je parle de bourse sur le site Reddit. Je jase avec la gang. J'ai sur Facebook, sur X. Je suis la bourse. Et là, de plus en plus, il y en a qui commencent à parler de manipulation boursière. Chaque fois que Trump arrive avec une information, quelques minutes avant, ou des fois c'est une heure avant, il y a des trucs qui se vendent ou des trucs qui s'achètent. C'est-tu le genre de choses que tu entends parler, ça, aux États-Unis, qu'il y aurait peut-être de la manipulation boursière dans l'entourage de nos hauts dirigeants?
Pour peu que vous cherchiez avec des sources fiables, vous allez tomber pas juste sur des rumeurs. Il y a des gens qui sont convaincus. On parle de gens, là, je peux jouer ma minute conspirationniste, je peux faire ça. Mais ce sont des... Il faut être de son temps. Ce sont des sources fiables qui disent si l'agence qui normalement évalue les transactions en bourse, faisait son travail, on aurait déjà coincé des gens. Cette seule phrase-là résume à elle seule, donc, ou répond à ce que tu m'as posé comme question. C'est qu'il y a une agence, normalement, qui fait ça, qui valide hein, les transactions qu'il y a à la bourse, mais depuis que Trump est revenu, cette agence-là ne se manifeste jamais. C'est plus qu'un curieux hasard. Là. C'est André Arthur qui disait, si vous croyez au hasard à ce point-là, allez acheter des billets de loterie.
Il disait, allez au casino!
Allez au casino, voilà! Meilleure imitation que la mienne.
Si vous croyez au hasard, allez au casino!
Allez au casino. Donc, non, il y a, je pense, assurément des enquêtes à faire. Est-ce qu'on aura le fin mot de l'histoire? Moi, au moins, ce que j'aimerais, mais c'est une chose, ça fait partie de cette manne de sujets qu'on pourrait ou qu'on devrait aborder, il devrait y avoir des enquêtes et il n'y en a pas.
On parle avec le chroniqueur politique américain Luc Laliberté. Il est aussi podcasteur maintenant de La Liberté en clair. Pour les gens qui veulent avoir accès à tes podcasts sur la politique américaine, Luc, ils peuvent faire quoi?
C'est essentiellement se diriger directement sur Facebook. Et quand on cherche La Liberté en clair, ce qui apparaît tout de suite dans le haut de la page, ce sont les capsules. Je les relais sur d'autres réseaux sociaux, mais ça veut dire une étape de plus. Donc, allez directement sur Facebook. Les capsules sont là chaque matin vers 7h30, 8h moins 4.
On fait une courte pause et on revient.
Marceau, le soir. Le segment que personne ne veut manquer le matin. Le Pit Stop de 7h55 avec Gravel et Marceau.
On va parler de violence faite aux femmes. Pourquoi vous parlez pas de la violence faite aux hommes? Ben, c'est pas de ça qu'on parle, fils d'imbécile.
Ben, c'est ça. C'est pas de ça qu'on parle, puis c'est parce que...
C'est bon, Marceau. T'as réussi à me faire fâcher lundi matin. Ben, j'étais de bonne humeur.
Hey, Denis, on se pose la question en soleil. Qu'est-ce qui freine la télémédecine publique au Québec?
Hey, pensez à cette phrase-là deux minutes. La télémédecine n'est pas dans les cartons de Santé Québec. Calistophé, moi, tout ce monde-là dehors.
Autre sujet, c'est Martineau qui nous amène ça ce matin. Parce que la bière est bleue, parce que ça s'appelle slush, on dit, ben là, vous vous adressez aux enfants, donc on vous donne une amende.
La régie des alcools, si vous avez rien d'autre à faire que de courir après le Saint-Boc parce qu'une bière est bleue, calistophé, moi, tout ça dehors. Ils n'ont plus rien à faire de leur journée. Organisme complètement inutile. Regarde, on va faire du ménage. C'est le printemps, on fait du ménage. On sort de la vidange. Ouais. Ouais.
Le Pit Stop de Boulevard 102.1. Lundi au jeudi, 7h55.
Ce segment d'émission présenté par la Force Kia.
Kia Québec 5 fois et Val-Bélair vous disent merci.
Kia est la marque la plus vendue dans la région.
La EV4 100% électrique est offerte à moins de 42 000 $. Vous ne paierez plus jamais d'essence. Kia Québec, Sainte-Foy et Val-Bélair domine grâce à vous.
Ce segment d'émission présenté par la Force Kia.
Kia Québec, Sainte-Foy et Val-Bélair vous disent merci.
Kia est la marque la plus vendue dans la région.
À moins de 27 000 $, la K4 est le véhicule le moins cher au pays et il consomme très peu d'essence. Kia Québec, Sainte-Foy et Val-Bélair domine grâce à vous.
Le Festival du Bûcheux, en collaboration avec Boulevard 102.1, vous lance une invitation à ne pas manquer. Dès le 27 août, direction Saint-Pamphile pour une 44e édition qui s'annonce incroyable. Des spectacles pour tous les goûts.
Avec Kain, Matt Lang, Soulja, Guylaine Tanguy, David Pinault et bien d'autres.
Venez vibrer au rythme des compétitions forestières en plus de profiter d'une foule d'activités dans une ambiance festive. Triathlon du bûcheron, abattage de précision, lancer de la hache, jeux gonflables et bien plus. Le Festival du Bûcheux vous attend.
Décourante, spécialiste en garde-corps verre et aluminium, vous offre des produits québécois sur mesure, garantie 20 ans avec un rabais de 15 % Visitez deco-rampe.com.
Découvrez le Grand Crousty chez Bénin et compagnie. Un nouveau burger généreux, garni d'une galette de poulet frit, de rondelles d'oignon, de bacon, de laitue, de fromage en grains, de cornichons et d'une sauce ranch épicée. Avez-vous la mâchoire qu'il faut? Disponible chez Bénin et compagnie.
Arbre ou arbuste, telle est la question. Fanny de ne pas être bien conseillée. Pour un bouquet de choix, une Floralie de couleur. Faites-vous une fleur et passez chez Floralie Jouvence, votre centre jardin sympathique. À Québec et Lévis, ouvert tous les soirs en semaine jusqu'à 21h.
La légende disait qu'on préparait son retour, qu'il reviendrait en grand, encore plus.
Excusez, le Jeep Cherokee est vraiment de retour. Mmh. En version hybride.
Hybride, c'est historique.
Avec une autonomie
mythique
de 800 km et une consommation réduite
impressionnante.
Et un 4x4 de série.
Le tout nouveau Jeep Cherokee hybride 4x4 2026.
Ce n'est pas une légende urbaine, mais bien
le retour d'une légende.
À partir de seulement 42 390 $. Venez en faire l'essai
chez votre concessionnaire Jeep.
Tous les détails sur jeep.ca.
Dino vous offre une promotion du tonnerre. Apportez-nous votre emballage actuel de litière de grande surface et on vous donne un sac gratuit de litière Odor Lock de 6 kg. Faites vite, les quantités sont limitées et ça va partir vite. Visitez dino.ca.
Pour vos pièces automobiles, c'est Nordique.
Vos freins ont besoin d'amour? Nous vous proposons trois choix. Tech céramique, Bosch Blue et ce qu'il y a de mieux.
NRS plaquette haut de gamme avec support en acier galvanisé.
Et que dire des disques Géotech et Bosch? Demandez à nos conseillers d'expérience de vous expliquer pourquoi elles sont supérieures et parfaitement adaptées également pour les véhicules électriques. Le meilleur prix, qualité et service depuis 45 ans. Nordique, Première Avenue et Henri Bourassa. Nordique.com.
Allô, c'est Marie de l'entrepôt de la Réno. La folie des nouveautés est arrivée. Des produits tendance jusqu'à 50 % moins cher qu'ailleurs. L'entrepôt de la Réno, ouvert au public, sortie Chauveau sur Henri IV. Entrepôtdelaréno.com.
À Saint-Augustin-de-Desmaures, on sème des sourires. Envie d'y contribuer? Venez marcher avec nous. Vendredi 22 mai, dès 17h30, fête familiale et intergénérationnelle. Détails sur sfsr.info. La sécurité routière, j'en fais mon affaire. Un message de Solidarité Famille, Sécurité routière.
Entre le chantier et le chalet, pour tout ce qui est gros pis lourd, le Toyota Tundra, il y en a du coffre. Après l'avoir vu à l'ouvrage, vous allez comprendre pourquoi il fait autant jaser. Ça, c'est l'effet Tundra. Découvrez le Tundra et d'autres modèles emballants pendant la vente étiquette rouge. Mais faites vite, la vente se termine bientôt. Visitez achetermatoyota.ca ou votre concessionnaire Toyota du Québec aujourd'hui.
S'il y a un moment où on coupe les prix, c'est pendant la semaine. On passe les prix au Bonne-Sie. C'est le temps de faire du bruit. Des prix passés à la hache. Pour vos projets pendant la semaine, Rona.
Du 21 au 23 août, c'est le Raid Bras du Nord Promutuel Assurance, le plus gros rassemblement de vélos de montagne au Canada. Viens t'amuser avec tes collègues lors de notre défi corporatif ou participe à l'une de nos 5 courses en levante. Inscris-toi au raidbrasdunord.com.
Chez Vélo de la Côte, trouvez le vélo parfait pour vous. Électrique T-Wing, ultra puissant, modèle Norco et marin pour tous les styles. Gravel, montagne ou urbain, on a ce qu'il vous faut. Vélo de la Côte.com.
Salut Nissan.
Salut Gary. On commence cette remise de prix?
Oh oui! Alors, le gagnant du meilleur choix sécurité selon l'IHS est... pour une 5e année, le Nissan Rogue!
Oui, bravo! Faut dire qu'avec son autonomie allant jusqu'à 800 km avec un seul plein, il part déjà gagnant.
Et son offre mérite aussi une mention.
Louer le Nissan Rogue S à partir de 430 $ par mois à 0 % pendant 36 mois. C'est comme payer 99 $ par semaine. Inclus réduction fidélité de 0,4 % pour propriétaire Nissan admissible jusqu'au 1er juin sur approbation de crédit. Prix à l'achat comptant de 36 373 $. Des conditions s'appliquent. Détails chez Nissan.
L'application Boulevard. Dans une poche près de chez vous. Poche de jeans. Poche de short. Puis même ta poche de hockey. Appelez, textez, votez, réécoutez. L'app Boulevard 102.1. C'est plus que du rock. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Le chroniqueur Luc Laliberté, spécialiste en politique américaine, est avec nous. Il est aussi animateur du podcast La Liberté en clair. Merci, Luc, de prendre du temps avec nous ce soir. C'est toujours très apprécié.
Ben écoute, c'est réciproque. J'adore cette formule-là où on a un peu de temps pour jaser de plus qu'un sujet, mais le temps d'y aller plus que d'une phrase ou deux pour tout résumer.
Ouais. Un matin, je me suis levé, je t'ai mêlé. Là. Je ne savais plus si j'étais dans le 53e État américain ou le 51e. Mark Carney, c'est le gouverneur de quel État là, des États-Unis? Parce que je pense que le Venezuela nous a damé le pion. Là.
Ah, écoute, je pense même qu'on est 3e dans l'ordre maintenant. Là. Donc, c'est rassurant. Le 51e État, selon la carte publiée en pleine nuit par Donald Trump, c'est le Venezuela qui est le 51e État. Puis, d'après ce qu'on observe de l'administration, Cuba passerait même avant nous. Donc, je ne sais pas si Carney le prend mal, le 3e dans l'ordre après le Venezuela et Cuba. Donc, plus sérieusement, ce que ça montre effectivement, c'est qu'il a laissé le président, même s'il n'est pas toujours content de ce que fait Mark Carney, qu'il le fasse à Davos ou qu'il le fasse à Ottawa. Donc, le président y est allé de nouvelles priorités. Moi, ce que je constate surtout, c'est qu'il applique vraiment dans l'ensemble de l'attitude qu'il a par rapport à l'Amérique, sa nouvelle politique de sécurité nationale. Donc, c'est le document de référence. Je le dis parce qu'on a ça en ligne. Vous rentrez politique de sécurité nationale des États-Unis, puis vous avez accès directement au document. Donc, vous pouvez même ne pas vous fier à moi puis aller faire votre propre lecture du document. Mais donc, c'est très clair que ce que les Américains veulent, c'est que l'Amérique soit l'Amérique au grand complet. On les appelle les Américains en passant parce que c'est les États-Unis d'Amérique, exact. Le nom. Mais quand on parle donc de l'Amérique au grand complet, les Américains souhaitent que ça devienne ou redevienne leur chasse gardée. Et c'est la raison pour laquelle le président Trump rappelle un certain nombre de pays à notre mémoire. Le Venezuela, ben, on est tassé, Maduro, ça, les gens s'en souviennent, ça avait été une opération très spectaculaire. Mais en faisant ça, est-ce que Donald Trump a changé autre chose durablement au Venezuela? En tout cas, quand il a mis en ligne sa fameuse carte avec le 51e État qui était le Venezuela, la réaction au Venezuela n'a pas tardé. C'est pas dans les cartons, puis on est très fiers d'être des Vénézuéliens. Il n'est pas question qu'on devienne Américain. Et pour ce qui est de Cuba, bien ça semble être une opération qui est en cours. On va pousser avec encore plus d'insistance sur l'administration actuelle à Cuba. On espère faire tomber ce régime. Et je répète, si ça confirme la politique de sécurité nationale, au moins ça nous laisse tranquille un peu pendant ce temps-là.
On en parlait ce matin, fait que les auditeurs qui nous écoutaient ce matin entendent les vieux monsieur radoter ce soir, mais on s'en souvient qu'on en a parlé ce matin.
je suis content qu'on soit dans la même catégorie, je t'ai cru plus jeune pendant un moment.
Non, mais juste dire aux auditeurs qu'on se souvient que ce qu'on est en train de parler là, on en a parlé ce matin. Est-ce qu'on pourrait refaire ce qu'on a fait?
On a passé des tests cognitifs comme le président Trump.
Oui, c'est ça.
On les a réussi.
Exact. Est-ce qu'on pourrait refaire ce qu'on a fait avec Porto Rico, c'est-à-dire que le Venezuela devienne un territoire puis que Cuba devienne un territoire aussi?
Je serais étonné que ça se fasse à court terme.
Ouais.
Je ne suis pas certain que les Américains veulent, entre guillemets, là, je vulgarise, mais s'embêter avec ça. Ce qu'on veut, c'est qu'au plan stratégique, au plan de la sécurité, au plan stratégique, la localisation de ces endroits-là, puis en termes d'exploitation des ressources, je pense que les Américains veulent que ces deux pays-là soient alignés sur ce que désirent les États-Unis. Mais je n'ai pas vu rien jusqu'à maintenant qui dise « on est prêt à aller plus loin que ça ». Ce n'est pas impossible, mais disons qu'on vise une moyenne échéance, une plus longue échéance, pas dans les projets à court terme.
Parfait. Luc La Liberté, c'est maintenant tout le temps qu'on avait. Je te dis un gros merci pour t'être rendu disponible aujourd'hui. On s'est parlé deux fois, puis c'est toujours agréable à chaque fois qu'on se jase. Pour les auditeurs qui voudraient avoir accès à ton podcast, La Liberté en clair, on peut trouver ça à quel endroit?
Donc, sur Facebook, directement, vous arrivez sur La Liberté en clair et ce que vous avez tout de suite, ce sont les capsules. Mais dans ce cas-ci, ce serait la capsule que j'ai enregistrée tôt ce matin. Mais c'est les sujets qui m'apparaissent être les sujets chauds. Une brève explication, les enjeux, puis on fait ça vers 7h30, 8h moins quart, chaque matin de la semaine, sauf le samedi.
Et vu que Donald Trump ne dort jamais sur son Truth Social, il est tout le temps en train de poster des trucs. Toi, tu vis au rythme de Donald Trump. Toi aussi, tu dors jamais, c'est ça?
Non, absolument pas. À partir du moment où je rejoins ma conjointe, le téléphone est fermé et Donald va attendre le matin.
Ah ouais, Donald passe deuxième. Bon, c'est parfait.
Donald passe encore deuxième.
Luc La Liberté, je te souhaite de passer une agréable soirée, de même qu'aux auditeurs, puis on se reparle demain. Salut, Luc.
Un grand merci, Yannick. Bye.
Merci beaucoup. Bye-bye.
Marceau, le soir.
Au Québec, 20 000 personnes vivent avec la sclérose en plaques et il n'existe toujours pas de remède. 3 fois plus de femmes que d'hommes sont touchées. La sclérose en plaques, c'est près de nous. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez ou que vous aimez. Le 31 mai, on marche pour soutenir, pour faire avancer la recherche, pour changer des vies. Joignez-vous à nous à la base de plein air de Sainte-Foy. Chaque pas compte, chaque don fait une différence. Passez à l'action et créez un impact. Inscrivez-vous dès maintenant sur marchesp.ca.
Profitez de jusqu'à 50 % de rabais sur une sélection de vêtements, chaussures et équipements. Juste à temps pour le long week-end. Détailleur magasin, Sport Expert d'ici.
Ici PA Méthode pour Sainte-Foy Nissan et Beauport Nissan. Êtes-vous du genre que ça vous prend vraiment une bonne occasion pour changer d'auto? Écoutez bien l'annonce, ça se pourrait que ça fasse bonne journée.
Et comment? Ce mois-ci, durant l'événement Mettez-nous au défi, le Nissan Rogue est offert à partir